Et bonjour à tous, chers auditeurs, musique, etc. Deuxième partie, musique, etc. Une émission musicale de Radio Canu que vous pouvez retrouver notamment sur les blogs de Radio Canu et la rubrique musique, etc. Dans les studios aujourd'hui, donc, j'accueille Nico Sarro.
Salut.
Nico Sarro, bonjour, bienvenue à Radio Canu.
Merci.
Et Damien également présent.
Bonjour à tous.
On va écouter un peu rapidement une première chanson, mais ouais. Peut-être Nico Sarro, te présenter en quelques mots. Te présente un peu ton parcours. Je crois que ça fait pas mal de temps que
moi,
tu fais.
Moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais de la musique. Voilà, donc j'ai monté un trio rock il y a une dizaine d'années qui s'appelait Sarro. Voilà, où il y avait des compositions, on va dire plutôt. Ça ressemblait à un groupe, mais c'était plus un projet solo en fait. Donc. Il y a un batteur, un bassiste. Damien était le bassiste d'ailleurs de ce groupe. Et on a tourné un petit peu dans toute la France. On a fait 2 albums. Et voilà. Et ça faisait à peu près 6 ans que je faisais plus rien. Parce qu'en fait, je suis gérant d'un studio d'enregistrement maintenant, dans l'Ouest lyonnais. Et Damien trouvait dommage que je fasse plus rien. Donc du coup, il est venu me voir. Il m'a lancé un ultimatum en me disant « Bah, cette année, tu vas pas rien faire. Je vais te mettre au boulot. » Et donc il m'a lancé vraiment un challenge. Du coup, l'idée c'était de faire une chanson toutes les semaines, live, filmée, soit une compo, soit une reprise, et en profiter aussi pour raconter un peu mon parcours, parce que Damien c'est quelqu'un qui aime raconter des histoires. Il vient du jeu de rôle, il vient de pas mal de choses comme ça, et du coup bah en fait voilà pourquoi on est là aujourd'hui, c'est parce que à la suite de ce programme, là on arrive un peu à la fin. Ça depuis novembre 2019, on fait une chanson par semaine.
Voilà. Et ça, on peut le retrouver où? Parce que c'est assez.
Alors, le projet s'appelle En toi, je vois demain. Mmh. Sinon, on tape Nico Sarro sur YouTube, vous allez trouver le projet. Sinon, c'est la société de Damien qui s'occupe de ça, s'appelle Grace Prod. Voilà.
À noter que tous les titres sont disponibles
gratuitement sur Internet, en streaming sur YouTube. Oui. Ouais.
Donc là, c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on va écouter, et puis on va écouter aussi deux titres, je crois,
albums précédents. Ouais. Ouais.
Vous voulez.
On peut commencer par le générique. Là, En toi, je vois demain, qui est dans la version donc solo qu'il a enregistrée. On peut lancer ça. Tu me donnes le signal.
C'est parti, Nico Sarro.
Dans mes bras, ma petite, avec toi je me saoule. À l'air pur, même le pire semble doux, je te savoure. Allongé sur la mousse, avec toi j'oublie tout. Mets le feu dans ma bouche, tequila mon amour. Tequila, est-ce que t'aimes mon amour? Tequila, est-ce que t'aimes mon amour? Dans tes yeux, je chavire, je tangue, tu me bouscules. Avec moi, sois tranquille, tu es en majuscule. Dans mes bras, ma petite, avec toi j'oublie tout. À l'heure pure, l'arsenic prend des airs de velours. Tequila, est-ce que t'aimes mon amour? Tequila, est-ce que t'aimes? Tequila, mon amour. Tequila,
Bossaro sur Radio Canu avec le titre donc
Tequila du qui est sur le premier album et qui est, on a refait en single en fait derrière. Vu que quand on le jouait en live, on avait pas mal de succès sur ce titre, du coup on l'a ressorti en single avec un producteur parisien à l'époque. Donc c'est un titre qui a une petite dizaine d'années maintenant. Voilà. Et du coup tout à l'heure on s'est trompé, hein. En fait Damien a annoncé dans toi le jeu demain, mais c'est Tequila en fait qu'on a envoyé. C'est pas grave.
Ah, c'est bien, on parlait du passé, ça allait bien avec. Du coup.
Et donc c'est toi qui as écrit Cassini qui signe le texte et la mélodie sur
voilà.
Celle-ci.
Voilà. Ouais. En fait sur ce projet là c'est souvent je suis auteur et compositeur.
Ouais,
je
fais les deux.
C'est un projet très personnel en fait, hein, où même s'il y avait le groupe, tu l'as dit tout à l'heure, en fait on était là, nous le groupe, en soutien pour aider les compos de Nico à trouver une forme live de tout ça quoi. Après c'est vrai qu'on a créé un vrai groupe qui est né quoi en même temps, parce qu'on a quand même joué ensemble longtemps. Derrière ce projet, voilà. Mais c'est vraiment les titres de Nico, ses textes. Et puis en fait, quand on discute avec lui, c'est ce qu'on peut voir dans Toi je vois demain, dans toutes les discussions qu'on met en scène, c'est qu'en fait Nico, il a vraiment une façon d'appréhender sa composition qui est vraiment très personnelle. Et ça va très loin, jusque dans le texte, jusque dans les choses qu'on ne sait pas forcément quand on lit le texte, mais qui donne quand même une profondeur à ce qu'il fait. Or, et par ailleurs, il bosse dans la musique dans d'autres secteurs. Hein. Il a un gesson où il peut faire des. Il peut même écrire de la musique pour d'autres. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il a écrit le générique de la série Heroes, ouais, qui est passé sur TF1 à l'époque. Voilà. Mais quand il fait ça, son approche est totalement différente, quoi. Elle n'est pas aussi personnelle. C'est ce qui la rend intéressante, à mon avis, dans ses chansons.
Et qu'est-ce que ça fait de faire le générique de Heroes ?
Bah, pas grand-chose. Pas grand-chose. Non, non, c'est intéressant. Ouais. Après, c'est toujours intéressant quand les professionnels retiennent votre candidature pour quelque chose, quoi. Donc moi, ça fait une petite dizaine d'années que je travaille avec certains éditeurs où j'envoie des chansons comme ça. Alors des fois, ça reste dans les tiroirs, il se passe rien. Puis des fois, bah voilà, ça sort. Donc là, c'était une coécriture avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Michel Zanetti, avec qui je travaille beaucoup. Et on fait beaucoup de choses comme ça, où on écrit des chansons pour les autres. Si les gens cherchent des chansons si les gens ont un talent par exemple d'interprétation mais qu'ils n'ont pas forcément l'idée de composer ou ils ne savent pas bien composer, etc., ben nous on offre nos services là-dedans, et la preuve, on a réussi à plugger des choses vraiment intéressantes avec des professionnels en travaillant comme ça, quoi. Mais ça c'est une autre partie de mon travail de musicien, quoi. C'est vraiment quelque chose que je fais à côté de mon projet perso, quoi.
Là, ce qu'on va écouter tout au fil de l'émission, ce qu'on a écouté aussi, le titre qu'on vient d'écouter, donc c'est dans la démarche de ton projet qui est voilà. Perso, quoi, Nico Sarro.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et il faut savoir, c'est dans le projet, il fait aussi, dans le projet donc, qui est sur YouTube, où il joue en live un morceau par semaine, il a aussi fait pas mal de reprises, parce que 52 ouais. titres en un an, il faut quand même envoyer, ouais. Donc on va aussi y quelques... Mais c'était que des reprises, pareil, qui ont été vraiment importantes pour lui, c'est-à-dire, c'est pas forcément, même s'il y a quelques morceaux qui sont entre guillemets des tubes, hein, plus ou moins, mais le plus souvent c'est pas forcément les grands tubes que tout le monde connaît d'un artiste qui l'a influencé, quoi. C'est vraiment le titre qui lui a parlé, ça qui rend le truc aussi intéressant.
Ouais, puis une relecture des morceaux, je pense qu'on va écouter Aucun Express et puis le morceau de Queen pendant l'émission.
Ouais.
Une relecture à chaque fois des morceaux, puis un regard sur le morceau qui est complètement neuf, quoi.
Ouais, bah en fait c'est moi, si c'est pour refaire la chanson telle qu'elle était, je trouve pas ça intéressant, parce que du coup la personne l'a fait, et elle est très bien comme elle est. J'ai pas forcément envie de faire un plagiat ou de me rapprocher au plus proche de la version originale. En fait, ce que j'aime bien, c'est prendre quelque chose et de partir complètement à l'opposé, ou alors de faire quelque chose de très très personnel. Voilà, en tout cas, le cover, j'essaie de me l'approprier, mais comme disait Damien, tous les covers qu'on fait sur cette chaîne YouTube, c'est toutes des chansons qui m'ont construit musicalement, en fait. C'est des choses que j'ai écoutées de l'âge de 5 ans jusqu'à maintenant. Voilà, à chaque fois que j'ai fait une chanson dans ce programme, en fait, c'était une chanson qui était importante pour moi. c'était pas forcément une chanson que je peux jouer dans un bar quand je joue comme ça. Des fois ça m'arrive de jouer dans un bar ou sur une salle de concert où je fais des covers, et ben c'est pas ces covers là que je joue souvent. Je vais jouer des covers que les gens réclament ou voilà, mais ces covers là c'est vraiment des covers très personnels, c'est ça qui est bien, enfin que moi je trouve intéressant, c'est que je peux amener vraiment ma personnalité à travers ce cover là et puis comme c'est quelque chose qui m'a vraiment touché quand je l'ai écouté, bah je pense que tu l'interprètes aussi différemment quoi, quand une chanson est vraiment importante pour toi et que c'est pas simplement un tube, voilà. Je trouve que c'est ce qui est intéressant.
Je vous propose qu'on écoute peut-être un deuxième titre. Qu'est-ce qu'on va écouter?
On emmène, bah du coup on va enchaîner sur une cover, celle de Queen qui est assez chouette. Allez, c'est parti.
Nico Saro.
There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams? Yeah, slips away from us. Who wants to live forever? Who wants to live forever? Who? There's no chance for us. It's all decided for us. This world is only one sweet moment set aside for us. Who wants to live forever?
Donc avec un cover de Queen, alors on peut dire que tu t'as pas pris vraiment la
j'ai essayé de faire ça,
la chanson quoi.
Après c'est un peu le challenge de faire toutes les semaines une chanson. Donc des fois je prends une guitare acoustique et voilà, et là bon l'idée c'était de prendre une guitare électrique j'avais envie de faire quelque chose d'assez vaporeux avec des grosses reverbs sur la guitare, tu vois. Et voilà, donc on a fait. Mais ce qui est marrant dans ce, sur ce titre-là, c'est que des fois, il y a Damien qui vient filmer et moi je joue et on enregistre live et on fait tout en une seule prise. Et souvent, bah, des fois, il me faut un, deux, trois morceaux pour me chauffer, et voilà. Et là, ce qui est marrant avec ce morceau, c'est que, on est arrivé à 20h30, on a mis la caméra, on a attaqué à 21h, et à 21h10, la chanson était dans la boîte,
En fait, t'as fait deux prises, mais la première, elle était déjà bonne, on a fait une deuxième juste histoire de,
ouais,
pour voir.
Mais la
si
deuxième était moins bien
mieux,
que la
quoi.
Première, du coup, on a gardé la première. Ouais.
Parce que donc, ça, c'est un autre truc qui est assez intéressant, surtout maintenant où la musique, elle est vachement, modifiée par ordinateur, vu les outils qui existent. C'était de revenir à quelque chose de très live. C'est ça qui était important, parce qu'en fait, ce que fait Nico, là, un titre par semaine pendant un an, tout le monde peut pas le faire.
Voilà. Ah, je confirme. Ouais.
Et du coup, surtout comme ça, sans trucage, alors que s'il chante faux un moment, il chante faux un moment, on corrige pas derrière. Donc, c'était vraiment ramener ces prouesses-là, quoi. Des choses que moi, j'aime chez les artistes. Enfin, je peux aimer aussi de la musique qui est faite par ordinateur, avec des gens qui ont peut-être moins de talent que Nico, mais qui sont des bons bricoleurs et qui font des trucs très bien. Mais j'aime bien aussi qu'on rende hommage à ceux qui sont capables de faire ça live, quoi, devant toi, en vrai, sans trucage. Je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez puissant, quand même, de pouvoir vivre ça, enfin voir ça, donc, et pouvoir faire ça surtout.
Merci Damien. Merci pour ces compliments.
Non, en tout cas, ça, c'est dans une démarche très authentique, très. J'ai mangé le mot du coup, mais très authentique, très direct, quoi. Donc il y a pas.
Ouais, essaye d'être sincère. Enfin, on essaye d'être sincère et dans la démarche et dans le programme et dans tout ce qu'on propose. L'idée, c'est vraiment de pas être dans le fake, quoi, dans le faux, quoi. L'idée, c'est vraiment de proposer vraiment quelque chose de vrai, voilà. Mmh. Parce qu'on est tellement entouré de choses fausses, quoi. Que ce soit les images, les vidéos. Les sons, voilà. L'idée, c'était vraiment de proposer quelque chose de vrai, quoi. Voilà. Avec ses qualités et ses défauts, quoi. Parce que voilà.
Ah, puis je pense que les gens qui aiment la musique, je pense, c'est des choses aussi qu'ils ont besoin d'entendre en ce moment, quoi. Enfin, qui sont sensibles à ce genre. Il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à ce type de démarche, quoi.
Bah oui.
Puis surtout, on peut aimer plusieurs démarches différentes. On n'est pas obligé de choisir dans les démarches. C'est sympa aussi que ces démarches-là, elles existent encore.
Ah oui, oui.
Voilà, c'est ça, et que c'est ça qu'on avait, qui était bien de défendre. Puis quand on dit que c'est la démarche, elle est sincère, c'est aussi parce que l'histoire, malgré les belles choses que Nico a pu faire, on a parlé là de TF1, il a parlé de ses deux albums, etc. C'est aussi, on parle aussi des choses qui sont moins marrantes, mais qui font partie de la vie d'un artiste, quoi. Les échecs, etc., les difficultés qu'un artiste peut rencontrer au cours de sa carrière, ce qui peut parler à pas mal de gens aussi, par ailleurs. Donc il y a aussi cet aspect-là, hein, qui souvent on le met de côté. C'est une société où il faut qu'on met vachement en avant la réussite. Puis en fait, un parcours d'artiste, c'est un peu plus complexe, mais aussi un peu plus intéressant que ça, parce que de tous ces échecs, Nico, on a fait des choses, quoi. On a construit des choses qui sont belles parfois, quoi.
Puis Damien, je croyais que tu disais il y avait un côté artiste maudit chez un peu Nico.
Ouais,
Sparrow.
C'est ça. Au sens littéraire, c'est un peu parce que ayant vécu une partie de cette aventure avec Nico à ses côtés, c'était toujours assez troublant moi je le connaissais déjà bien. C'est toujours assez troublant de voir que les gens reconnaissaient pas son talent. Et là, on vient d'écouter la reprise de Queen, on se rend bien compte que c'est pas n'importe qui peut faire ça. Et en fait, il y avait beaucoup de gens qui s'attachaient à autre chose que ce qu'ils proposaient musicalement pour justifier une certaine, comme s'ils comprenaient pas en fait l'artiste qu'ils avaient devant eux. Et je pense que ça tient aussi à la personnalité de Nicolas, qui est quelqu'un de plutôt introverti en fait, et puis qui propose quelque chose de ouais, il est à la fois très pudique et en même temps il veut parler des choses qu'il a au fond de lui. Donc là, ça crée une sorte de conflit, quoi, chez lui. Et du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, des fois, qui pouvaient le percevoir d'une certaine manière. Et avec l'âge et avec ce programme, l'idée, c'était d'arriver à passer à travers ça, cette incompréhension, pour justement proposer les clés de, voilà, pour vraiment comprendre cet univers-là et rentrer dedans. Enfin, moi, c'était vraiment ça que je voulais faire, parce que j'avais la sensation que cette incompréhension-là, c'était aussi peut-être ce qui avait mené au fait que Nico ait pas eu sa chance dans l'industrie du disque. Parce qu'après, bon, l'industrie du disque, c'est pas l'alpha et l'oméga de faire de la musique, hein. On peut être un artiste sans faire ça. Mais il me semblait quand même que Nico avait essayé de rentrer quand même dans l'industrie du disque pour pouvoir vivre de cette musique-là. Et puis pour proposer le meilleur de ce qu'il a proposé musicalement aussi, avec des moyens. Parce que quand on n'a pas de moyens, tout est plus compliqué. Déjà, il faut aller bosser. Donc on a moins de temps pour travailler sur sa musique. Mais du coup, il n'avait pas eu sa chance. Et à mon sens, quand même, il avait fait quand même une grande partie d'un parcours sérieux qui légitimait qu'il ait sa chance. Donc il avait eu des réussites. On a parlé de TF1. Il y a aussi cette version de Army of Me qu'il a enregistrée, qui s'est retrouvée sur un album que Björk a sorti. C'est elle qui a sélectionné tous les titres. Et donc c'est un truc mondial. Il y a eu, je sais pas, 700 chansons, 700 versions de sa chanson Army of Me. C'est au profil UNICEF. Et on avait sélectionné une petite vingtaine. Il y avait trois groupes français. Et dans un des groupes, c'était Nico qui chantait, quoi. Donc il y avait eu ça, il y avait eu toutes ces tournées qu'il a fait jusqu'à Paris, jusqu'à rencontrer les maisons de disques. Et en fait, finalement, il n'a pas eu sa chance. Et on a vu plein de choses pourtant très positives qu'on raconte dans le vlog. J'invite les gens à aller voir. Mais notamment quand il faisait des tournées en showcase, partout où il allait, ben en fait, il était parmi les meilleures ventes de ce jour-là, de l'enseigne où il allait pour vendre sa musique. Et pour autant, les décideurs n'ont pas passé le cap. Alors à quoi ça tient? Il y en a plein, on peut pas. C'est difficile d'aller les chercher, parce que déjà le marché de la musique, quand Nico est arrivé avec Sarro, enfin, où je jouais avec lui à l'époque, c'était l'effondrement du marché de la musique. Donc tous ces gens-là, ils ont disparu, licenciés ou quoi que ce soit. Mais on ne saura peut-être pas pourquoi. Mais on avait quand même le sentiment autour de lui qu'il y avait une forme d'incompréhension et de défiance. Parce que la musique qu'il fait, on va l'écouter après, c'est un rock qui est très chanté, et c'est pas très courant en fait. Et c'est un peu, c'est à mi-chemin. Il y en a certains qui trouvent que c'est trop variété, mais ceux qui aiment bien la variété, ils trouvent que c'est trop rock. Enfin bref, il est en cul entre deux chaises, et c'est difficile ça a toujours été difficile, et je pense que c'est moins difficile aujourd'hui qu'à l'époque. Qu'aujourd'hui, maintenant que en plus le rock est un peu dans une phase un peu plus difficile, parce que c'est vraiment le rap qui est partout. Je trouve que tout d'un coup, on se pose plus ces questions qu'on se posait à l'époque. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est l'art du temps. Ah voilà, je parle beaucoup, donc je vais m'arrêter là.
Et Nico Sarro, toi, ton regard là-dessus
Sur l'artiste maudit, tu veux dire?
Ouais, bah non,
sur ta question.
Sur cette incompréhension aussi.
Et puis
tout le cheminement qu'il y a qui peut être chaotique dans la vie d'un artiste, quoi.
La vie, que ce soit la musique ou autre chose, elle est faite de rencontres et d'opportunités. Et moi, j'ai eu des opportunités, j'ai fait des rencontres, il y a eu des choses bien et puis il y a eu des choses moins bien. Notamment, nous, ce qu'on aurait aimé, on a été longtemps en autoproduction et on aurait aimé avoir un label ou un manager. On a eu un copain qui nous a managé, et quand il a commencé à s'occuper de nous, on a commencé à vraiment trouver des concerts intéressants et vraiment à faire des choses. Mais lui, c'était pas son métier. Donc il nous a aidé le temps qu'il a pu, et puis après il a lâché. Donc en fait, nous, ce qui était compliqué, c'était de passer le cap de l'autoproduction, aller vers les professionnels. Et du coup, malgré les qualités qu'on avait, et malgré le fait qu'effectivement, quand on jouait en showcase dans un magasin, on vendait entre 30 et 40 disques en une journée,
en
quelques heures, je dis une journée. On faisait un set d'une heure, on vendait 30 et 40 disques dans la foulée, quoi. Et quand on parlait avec les magasins, c'était chez Cultura, quand on parlait avec les vendeurs de Cultura, les mecs, ils nous disaient, on n'a jamais vu ça, quoi. Donc on savait que entre nous et le public, il y avait quelque chose qui se passait. Et le seul problème, c'est qu'on n'a jamais pu rencontrer ce public à plus grande échelle, en fait. Parce qu'on était dans un réseau un peu indépendant, on dépendait des SMAC, on dépendait des salles de musique actuelles, des bars concerts, et voilà. Et nous, comme on faisait du rock, bah on était dans ce milieu-là. Mais ce qu'il aurait fallu, c'est qu'on puisse passer un cap et monter un peu en gamme, si je puis me permettre, faire des premières parties, faire des choses comme ça, et pouvoir ouvrir ce rock un peu indé vers des... comme à l'époque a pu le faire en Angleterre, Muse ou des choses comme ça, où c'était du rock chanté. Voilà. Donc, comme disait Damien, le rock chanté en France, bah, ça peut s'apparenter un peu à de la variété. Sauf que moi, tous les grands chanteurs que j'aime, que ce soit Tom York pour Radiohead, Jeff Buckley, ou même le chanteur de Muse, ou même Freddie Mercury, voilà, c'est tous des gens qui chantent, qui ont des vraies mélodies, et qui défendent la mélodie quoi, dans leur musique. Et en France, bah, nous, on se heurtait à du rock français, très monocorde. Voilà, moi j'aime bien Noir Désir, ça fait partie de mes références, mais les mélodies sont très monocordes, c'est très parlé, c'est très scandé. Même Romain Humeau, que j'adore, chez Romain Humeau, il y a plus de mélodies que chez Noir Désir. Les harmonies sont plus intéressantes aussi, je trouve, au niveau des chansons. Il y a un travail mélodique qui est différent de chez Noir Désir, mais à l'époque, on avait Deportivo, on avait d'autres groupes comme ça, Luc, enfin, et nous, on tournait au milieu de ces gens-là. Et effectivement, on arrivait avec un rock très chanté par rapport à cette scène rock française. Et on n'arrivait pas à rentrer dans la scène rock indé, en fait. Comme on n'arrivait pas à rentrer en radio parce qu'ils trouvaient que c'était trop rock, quoi. Donc c'était ça. Donc pour revenir à l'artiste maudit, moi je me sens pas maudit. C'est-à-dire, les gens peuvent interpréter ça. C'est Damien qui a lancé ça sur YouTube en disant que voilà, que j'étais maudit parce que j'avais pas eu les chances de peut-être. Mais j'ai pas été marabouté. Je pense pas que quelqu'un a pris une petite poupée et m'a piqué comme ça pour que j'arrive pas à faire des choses en musique. En fait, j'ai fait plein de choses en musique et moi je suis très fier de ce que j'ai fait. Je me sens plutôt même béni par rapport à plein de gens qui galèrent. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens super et de faire plein de choses intéressantes. Le seul truc, c'est que malgré tout, on en veut toujours plus. À un moment donné, on se dit, bah voilà, j'ai joué devant 500, 1000 personnes maximum. Bah, j'aimerais bien un jour pouvoir jouer dans une salle où il y a 3000, 5000 personnes. J'aimerais pouvoir voyager aussi, aller dans des salles, faire des premières parties avec des artistes que j'aime bien. Enfin voilà.
Après, pour pas qu'il y ait mal entendu, c'était aussi l'idée de vivre de sa musique. T'as jamais pu vivre de ta musique.
J'ai jamais pu vivre de ma musique.
Malgré tout ce que t'as fait. Quoi. Ouais, et donc, faut pas que les gens s'imaginent que. Parce qu'il y a plein de gens qui arrivent quand même à en vivre de la musique en restant dans l'ombre, par exemple. Mais c'est pas tout à fait ce que Nico a réussi à faire, même si il a à son actif des choses. Et puis que là, il vient de monter un studio, donc quelque part, grâce à ce studio, il espère aussi pouvoir continuer justement à vivre de la musique. Mais ça n'a pas été le cas.
C'est sûr.
Je vous propose qu'on écoute un troisième titre, peut-être.
Ouais, et ben qu'est-ce qu'on fait? Le Alain Bashung, peut-être. Allez. Et puis après, on écoutera tes morceaux. Allez, Aucun Express.
Nico Sarro.
Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco n'y accostera. Aucun concorde n'aura ton envergure. Aucun navire n'y va sinon toi. Aucun trolley ne me tiendra si haut perché. Aucun vapeur ne me fera fond. Des escalators aux chariots ailés, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai longé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté. Transporté par-delà les abysses, par-dessus les vergers, délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. Astronef ne s'y attarde. navire n'y va sinon toi. Épouser ses méandres, je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les vergers, délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté.
Saro, avec donc une relecture de la chanson de Bachung, Aucun Express. Donc il y a, c'est une chanson donc qui figurait sur l'album Fantaisie Militaire.
Ouais, tout à fait, ouais. Qui est un des albums qui m'a le plus scotché dans les années 90, quoi.
Et du coup, tu disais que c'était toutes les chansons que tu reprends, enfin les covers, c'est toujours des chansons qui sont importantes. Et dans quel sens celle-ci a été importante pour toi, Nico Saro? Qu'est-ce qu'elle suscite en toi?
Bah, beaucoup de questions, hein, le côté mortel qu'on peut avoir aussi, et que voilà, quoi qu'on puisse faire, rien qui nous emmènera vers la félicité, quoi. C'est un peu ça, quoi. Aucun Express. Non, c'est moi, je suis un grand fan de Bachung. Et Jean Fauque, notamment, c'est les gens
qui est l'auteur.
Voilà. Et d'ailleurs, je lance un appel, hein, si Jean Fauque veut écrire des chansons, moi je signe tout de suite. Voilà. Parce que je suis auteur, mais c'est clair que moi c'est un peu dans la douleur. J'aime écrire des chansons et tout, mais dès que c'est sur mon projet perso, bah voilà, il faut que je descende au fond du puits, aller chercher un peu les sensations, voilà, et les choses. Parce que j'ai pas envie de chanter des choses faciles et des choses qui me touchent pas, quoi. Faire une chanson. Basique sur voilà, j'ai croisé la boulangère, enfin voilà, c'est, enfin voilà, j'ai passé, il y a des artistes qui le font très bien et qui arrivent à nous faire sortir des émotions en parlant de choses simples de la vie. Moi j'ai besoin de descendre vraiment très profond, et souvent ça se fait un peu dans la douleur, et c'est clair que des fois je me dis travailler avec un auteur, un vrai auteur, voilà, ça me tenterait vraiment bien, quoi. J'aimerais bien, en tout cas.
Et puis après, juste pour revenir un instant sur le cover de Bachung, Bachung, il a, comment dire, il c'est plutôt parlé, justement, et là, vraiment, tu chantes la chanson de Bachung, que lui ne chante pas, finalement, bizarrement, c'est un peu bizarre de présenter les choses comme ça, mais
ouais, c'est ça,
on
ouais.
retrouve le côté rock mélodieux, ce qui donne l'originalité, justement, de cette relecture, quoi.
Ouais, après, c'est clair que moi, je sais pas ne pas chanter.
Ouais, c'est vraiment, qualité,
j'admire, hein, les chanteurs, Gainsbourg, qu'est-ce qu'il y a, il y a Benjamin Biolay aussi qui est très bon là-dedans, voilà, il y a plein de gens qui arrivent à faire passer des émotions sans pousser avec le diaphragme, hein, le son sort quand même, et voilà, mais je pense que c'est peut-être une des prochaines des choses à explorer chez moi, à partir vers des choses peut-être plus parler, plus slammer, plus je... De toute façon, tout ce qui touche à la voix, c'est quelque chose qui me passionne, donc moi j'ai toujours aimé les gros chanteurs où ça envoie du lourd et ça va chercher des notes très haut, et là je commence à me calmer un peu, à me dire bon bah voilà, ok, bon, c'est très bien, maintenant on va aller chercher plus dans le fond que dans la forme aussi. Ce que j'aime chez Bachung, c'est le fond, quoi, surtout, et l'émotion qu'il arrive à passer sans justement pousser trop, quoi, en le faisant vraiment le plus délicatement possible et le plus intensément possible, quoi. C'est ce qu'il y a de plus dur, hein, de faire passer une émotion sans la faire passer, en fait. C'est ça, le truc. C'est tout l'art des interprètes, en fait. Voilà. Des bons interprètes.
Bah, c'est-à-dire, en fait, ça fonctionne, la recette, ça fonctionne aussi chez toi en la chantant. Enfin, je joue sur Aucun Express, par exemple.
Oui, mais je chante, comme tu disais, je la chante, donc du coup...
Tu veux dire que c'est plus facile de faire passer une émotion en chantant ?
Bah oui, je pense que arriver...
Quand t'as le cover, pour parler de...
La nature même du chant, c'est de pousser, et du coup on se retrouve avec du volume en plus, et du coup ce volume d'air qui arrive, du coup c'est un peu comme un espèce de souffle de vie, les gens, vous pouvez rester dans une pièce avec quelqu'un, il va vous parler, il se passe rien de spécial, puis d'un seul coup cette personne va se mettre à chanter comme ça a cappella par exemple. Il va se passer un truc, vous allez reculer d'un mètre, vous allez dire qu'est-ce qui se passe, et puis vous allez écouter, puis là il se passe un truc quoi. Le chant, c'est vraiment quelque chose où il se passe quelque chose quoi. Moi ce que j'admire, c'est pour reprendre l'argumentaire que j'avais avant, ce que j'admire c'est les gens qui arrivent à faire passer une émotion sans passer par cet artifice là du chant quoi. Comme Bachung, comme Gainsbourg, comme Benjamin Biolay, des gens qui arrivent à vous faire passer une émotion, ou même des gars comme Grand Corps Malade, non ? Des mecs qui font du slam, ou des poètes qui arrivent à faire passer des choses. Et moi, c'est un univers que je ne connais pas, parce que moi, j'ai toujours chanté, mais c'est pas quelque chose qui me désintéresse, au contraire, c'est quelque chose qui m'intéresse, d'aller vers aussi le fond plus que la forme, quoi.
Cela dit, pour prendre Benjamin Biolay ou Gainsbourg, c'est quand même, j'allais dire surarrangé, c'est péjoratif, mais c'est les arrangements prennent beaucoup de place quand même.
En fait, la musique, elle est là justement pour renforcer le discours. Et c'est ça qui est
apporter la variété aussi, parce que c'est vrai que pour avoir entendu Benjamin Biolay quand on parlait il n'y a pas longtemps, lui, il a quand même la sensation du fait qu'il n'ait pas beaucoup de voix, etc., qu'il est toujours dans le parler. Il a l'impression de faire un peu toujours la même chose. Et donc, il apporte vachement de variations dans sa musique pour qu'on se lasse moins de son débit de voix, etc. Donc c'est vrai que la musique, de ce point de vue-là, devient très importante. Mais de toute manière, ça reste vrai aussi quand on chante.
Oui, bien sûr.
Parce que de toute façon, il faut de la variation. Sinon, les gens, ils s'ennuient au bout d'un moment, quoi. Enfin, on perd l'attention un peu.
Je vous propose qu'on écoute un quatrième titre. Qu'est-ce qu'on va écouter de Nico Sarro?
C'est L'Empreinte, un titre très personnel justement, de Nico, joué pour Antoine Je vois demain.
En live.
Nico Sarro.
Autour de toi, leurs silences sont à l'aise. Chez toi, ils sont les rois. Si les regards s'absentent, que les fuyants sont loin. Tes souvenirs qui s'étendent pour eux ne valent plus rien. Thank you.
Nico Sarro, donc avec le titre
L'empreinte.
Donc là, c'est tu signes texte et.
Alors, ça, c'est une coécriture avec ma compagne. Voilà, c'était presque même une commande. En fait, c'est une chanson qui parle du fait que on sait qu'on va perdre des gens, les perdre physiquement. On se demande avant, est-ce qu'il va rester quelque chose, est-ce qu'il va rester une empreinte, quoi. Donc cette chanson, c'était moi, j'avais mes grands-parents qui étaient assez âgés, et en fait j'avais envie d'écrire une chanson sur ce moment-là où on sent qu'on va les perdre, mais ils sont pas partis encore, ils sont encore là, mais on sent que, et on, du coup on se pose la question, quand ils vont partir, qu'est-ce qui va rester d'eux, voilà. Donc du coup c'était une coécriture, voilà. Moi, j'arrivais pas à attaquer cette chanson, et puis ma compagne m'a aidé à partir là-dedans, et j'avais envie de faire quelque chose de très personnel et très sincère, voilà, dans cette chanson.
Et pour comment naissent les chansons quand tu écris et que tu composes en général?
Il y a pas de, voilà. J'ai pas de méthode, mais souvent je me mets à la guitare, et je fredonne des idées, des choses comme ça. Alors des fois ça part d'un texte, c'est très très rare que ça parte d'un texte, mais quand ça part d'un texte, souvent c'est plus facile pour moi après de tout enchaîner, je dirais. Le plus compliqué, c'est quand je parle d'une mélodie, mais souvent je travaille comme ça, c'est-à-dire que je fais un yaourt, comme on appelle ça, un yaourt, guitare chant, voilà, je fais ma mélodie, voilà, j'ai une super chanson qui va rien dire avec des mots qui n'existent pas. Et après, bah, il faut faire rentrer dans les cases des mots en français. Alors là, c'est, on s'arrache les cheveux pour faire tenir les pieds, voilà. Alors là, oui, alors. Ah bah mince, non, là, ça tient pas. Bon, je vais changer de mot, alors. Ah, mais même, ça veut plus dire la même chose. Bon, bah alors. Donc ça, c'est l'histoire de ma vie. J'ai beaucoup écrit comme ça. Parce que je défendais les mélodies, quoi. Et plus ça va, plus je me dis, bah non, il vaut mieux avoir un texte qui tient vraiment la route et la mélodie, elle vient après, quoi. Et après, j'ai envie de dire, le must du must, c'est quand il y a moi j'appelle ça le momentum, c'est quand la mélodie et le texte arrivent ensemble. Et ça, ça m'est arrivé sur Tequila, ça m'est arrivé sur plein d'autres titres que j'ai fait, cet instant. Voilà. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un truc un peu ésotérique. Vous êtes en train d'écrire une chanson et de trouver la mélodie en même temps. Et c'est comme si vous étiez un pantin avec des fils, voilà, et que quelqu'un vous guidait et la chanson, elle se fait toute seule. Ça m'est arrivé 2-3 fois et c'est assez jouissif parce que bah justement, au bout du compte, au bout d'un quart d'heure, on a une chanson avec le texte définitif et la mélodie définitive. Et c'est ce moment-là que moi je recherche en musique quand je compose, c'est trouver ce momentum, quoi, ce moment où tout ne fait qu'un, quoi. Et ça, c'est très compliqué et très dur à retrouver ces moments-là parce que ça peut être, moi je me rappelle quand j'ai écrit Tequila, j'étais vraiment pas du tout dans l'esprit de faire quelque chose. Du coup, je me suis retrouvé debout dans un coin de mon studio avec un petit bout de carnet à écrire, debout avec la guitare, parce que je sentais que c'était le moment qu'il fallait le faire. J'avais les mots, j'avais la mélodie, j'avais tout, mais j'étais loin d'être assis dans un canapé confortable, machin et tout. J'étais dans un coin d'une pièce, vraiment pas à l'aise, mais j'ai senti qu'il fallait le faire à ce moment-là, comme ça, quoi. Voilà pour la petite anecdote.
On peut rappeler peut-être, on le répétera à la fin, mais où on retrouve justement ce qu'on écoute depuis le début.
Ouais, on retrouve ça sur YouTube, c'est gratuit. Ça s'appelle hashtag En toi je vois demain. En toi je vois demain, c'est un des titres par ailleurs de Nico. Et puis sinon, bah, par rapport au moteur de recherche, il suffit de taper Nico Sarro, et donc S-A-2-R-O. Et les gens trouveront assez facilement, tomberont facilement là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Ça fait la 49e semaine, samedi dernier, c'est la 49e semaine consécutive avec un titre en live. Et puis donc cette vidéo vlog où on raconte l'histoire à côté. Donc voilà, on a commencé il y a quasiment un an, ça va se terminer fin novembre. Et on est déjà à 120 vidéos. Il y a même des artistes qui reprennent Tequila, la fameuse chanson qu'on a mis au départ, et qui est vraiment une balade assez fédératrice dans ce que fait Nico. Il y a des artistes aussi qui ont repris ce morceau-là, qui nous l'ont envoyé et qu'on diffuse. Ça s'appelle Tequila Story. Et donc n'importe qui peut reprendre ce titre, voire même reprendre la piste de chant. Si c'est un bricoleur musical, il peut reprendre la piste de chant de Nico qui a été isolée toute seule, et puis construire sa propre musique dessus et nous l'envoyer. Et nous, on diffuse ça. Il y a déjà un illustre inconnu qui nous a envoyé son réarrangement du titre. C'est assez sympa. Voilà, donc tout ça, c'est gratuit. Ça a duré un an. On arrive à la fin. On va faire un petit concert à la fin pour fêter cette épreuve qui était hyper sympa. Mais là, on est vraiment... Enfin, tu vas peut-être nous poser la question, mais je peux déjà déflorer un petit peu, on n'est pas au bout du rouleau, parce que c'est vraiment, les gens ne s'imaginent pas, mais accomplir tout ça, ça a été vraiment un travail de fou, d'autant plus qu'on doit travailler à côté quand même pour assurer un minimum pour nos vies et nos foyers. Donc c'est gratuit, allez voir. Les gens qui veulent nous faire des dons financiers, ils peuvent le faire, on a une page Tipeee. Il y a les liens de toute façon sur toutes les vidéos YouTube et vous pouvez laisser quelques euros pour nous aider, nous encourager dans ce qu'on fait. D'autant qu'une des idées aussi c'était de laisser ce témoignage à travers un an de musique, de ce qu'est capable de faire Nico, de l'histoire musicale de Nico et de son parcours grâce aux vidéos où moi je vais interviewer des gens, beaucoup d'interviews de Nico évidemment, mais aussi on a interviewé d'autres gens. Mais l'idée aussi c'est qu'on a, enfin moi personnellement j'ai pas envie que ça s'arrête là. L'idée c'était que peut-être Nico finisse par avoir sa chance de pouvoir vivre de sa musique. Donc on a vraiment besoin que les gens s'intéressent à tout ça et puis viennent nous soutenir parce que c'est grâce à eux que cette chose là pourrait arriver.
Et puis oui, j'ai posé la question à Nico Sarro quand il y a eu le projet. Au départ, on t'a dit tu vas faire une chanson toutes les semaines pendant un an. Mmh. Ta réaction et puis après éventuellement comment tu l'as vécu au fil au fil du temps quoi.
Donc alors déjà j'étais quand Damien est arrivé, j'étais un peu un ours. J'étais enfermé dans mon studio à faire des productions pour d'autres artistes. Je croulais sous le boulot et j'étais vraiment pas dans mon état musicien, interprète et auteur quoi. J'étais vraiment au service d'eux. Et quand il m'a dit non mais t'as pas compris, tu vas tout arrêter et puis on va essayer de faire quelque chose et c'est toi qui va prendre le micro et qui va faire des choses. Donc moi comme j'aime bien chanter et que j'aime bien faire et que je suis un artiste live, moi le concept tout de suite m'a plu. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer et qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire toutes les semaines de différents. Et du coup, c'est là que Damien a eu l'idée de la chronologie et de se dire, on va partir de ton enfance et puis.
Je crois que c'est toi qui as eu cette idée.
T'es sûr?
Ouais. Je suis certain.
Je sais plus.
J'ai même une vidéo.
En tout cas, on essayait de trouver une solution pour qu'il y ait un point d'ancrage chaque semaine. Pour justifier un cover ou une compo quoi. Donc pendant toute la première partie on va dire de l'enfance, c'est toutes les chansons qui m'ont touché moi quand j'étais enfant, qui m'ont donné envie d'écouter de la musique.
Et du coup il y a des trucs très drôles hein, parce que il y a à la fois Freddie Mercury là qu'on va entendre, bien à la limite c'est dans on sent que c'est dans ton univers, mais il y a du Otis Redding qui est quand même plus de la soul, il y a Big in Japan là, ce morceau très new wave, il y a des choses surprenantes, des choses aussi moi où j'ai cru que ce serait pas forcément bien. Je pense à Allô Maman Bobo de Souchon qui était. Ouais. Je voyais pas du coup Nico dans ce genre de truc. Puis en fait, il en fait quelque chose à lui, quoi. Ça marche bien. Enfin, vraiment, c'était un moment sympa. Pardon, je t'ai coupé.
Non, mais pas de souci. Et du coup, voilà. Donc l'enfance, après l'adolescence, l'âge adulte, et puis après on arrive aux premières compositions et tout ça. Et du coup, toute cette histoire, elle se raconte à travers. Mes expériences musicales et du coup c'était plutôt intéressant parce qu'en fait moi aussi ça m'a obligé à me remémorer ces moments, mais quelle chanson m'a vraiment touché quand j'avais à peu près 6-7 ans, qu'est-ce qui m'avait vraiment touché. Donc du coup cette année-là m'a permis moi de me rappeler de plein de moments de mon enfance, plein de moments de mon adolescence, ça m'a rapproché aussi de gens avec qui j'avais fondé mes premiers groupes et tout ça. Donc c'est une expérience humaine et c'est une expérience qui est très difficile émotionnellement. J'ai vraiment vécu des moments assez compliqués cette année parce que ça raconte votre vie quoi. Et du coup c'était assez émouvant par moments pour moi. Et comme il faut. Moi j'aime bien être, je suis un peu perfectionniste et j'aime bien proposer quelque chose de qualité. Et du coup, Bah, je passais bien facile une ou deux journées de ma semaine, voire trois des fois, quand j'arrivais pas à trouver les bons arrangements, etc. Pour les parties. Donc les gens en fait s'imaginent que c'est une chanson qui dure 3 minutes live, on met un micro, on filme et puis basta. Mais en fait, ouais, moi j'avais 2 à 3 jours de préparation, choisir la chanson, se dire comment je vais pouvoir la jouer, qu'est-ce que je peux amener de neuf par rapport à ce titre-là, voilà. Et même pour mes propres chansons, parce que c'est des chansons qu'on jouait en trio, je jouais une chanson seule, c'est pas pareil. Donc voilà, moi ça m'a, enfin ça a été dur physiquement et moralement, mais ça m'a grandi, j'ai envie de dire, musicalement aussi. Je me sens plus fort maintenant par rapport à tout ça. Et puis ben, toute la partie vlog où Damien me pose des questions des fois auxquelles j'ai pas forcément envie de répondre, mais je suis obligé de répondre, tu vois. Des choses voilà, des choses personnelles sur les textes, sur des choses comme ça. Donc du coup c'est vraiment c'est un projet très très original qui, moi, m'a, au début je pensais pas qu'on irait si loin,
et ambitieux quoi,
et ambitieux, ouais, ouais. Et moi je m'étais engagé sur 52 titres sur un an, et puis on va se retrouver à peut-être 60 titres, parce qu'en plus il y a des bonus,
il m'a piégé,
je me retrouve avec des bonus à faire.
Ça, c'est pour les gens qui ont participé financièrement, ouais, si on a débloqué des titres en plus.
Je plaisante, mais du coup comme il y a des gens qui nous aident sur le Tipeee, ben on leur envoie un petit peu des cadeaux comme on peut, hein, avec ce qu'on,
ouais,
ce qu'on
avec
peut
ce
leur offrir, hein, c'est-à-dire des chansons. Moi, je peux leur faire des chansons en plus, donc voilà, on s'est engagé à faire quelques chansons en plus. Mais non, c'est un projet très ambitieux, et je sais pas si, même dans mes amis, même dans les gens qui savent ce qu'on fait, je suis pas sûr que les gens imaginent vraiment le travail que ça a été et l'investissement que ça a nécessité, même au niveau familial, enfin je veux dire, voilà, ouais, tous les gens qui nous accompagnent, voilà, c'est toutes les semaines, voilà, il y a 2-3 jours qui sont consacrés à ça. Donc pendant qu'on fait ça, ben on gagne pas sa vie, quoi. Donc comme ça, c'est quelque chose de gratuit sur internet, nous, moi j'espère que les gens vont avoir envie d'aller voir, et puis qui puissent nous soutenir en partageant, au moins en parlant, en disant bah ben voilà, il y a quelque chose, il y a un mec qui a fait une chanson live toutes les semaines. Après, je sais pas. C'est une idée de Damien, donc moi je sais pas. J'ai dit ok, mais je sais pas où on va en fait avec ça.
Non, on sait jamais où on va, mais c'est sûr que ouais, les gens s'imaginent pas, parce que déjà sur YouTube, ça s'est vachement professionnalisé ces dernières années. Donc la plupart des gros acteurs, bah, en fait, c'est des grosses boîtes de prod maintenant. Le mec qui est devant la caméra, en fait, il s'occupe pas de filmer, de faire le montage, de faire la com sur Internet. Et c'est sûr que nous, on était grosso modo que tous les deux, quoi, avec des aides ponctuelles évidemment autour de nous. Mais donc ça, les gens, je suis sûr qu'ils réalisent pas. Par contre, les professionnels, ils s'en rendent compte. Je pense qu'ils se rendent compte. Et un des trucs qui était important pour moi, c'est que moi, je suis persuadé que le public, il est là. Quand il y a Nico qui chante, parce que je l'ai vu. Donc ce qui était important pour moi, c'était de pouvoir proposer un projet pour pouvoir montrer professionnel et qui ne puisse pas opposer certains arguments que j'ai pu entendre à l'époque de Nico. Donc en faisant un exploit comme celui-ci, ce sera difficile quand même d'ignorer cet exploit, d'autant si nous on travaille bien pour que, bah, qu'ils soient au courant de cet exploit-là et puis qu'ils s'y intéressent. Je pense que ce sera difficile parce que, voilà, encore une fois, il n'y a pas grand monde. Il y a des gens qui ont fait ça dans le rap. Il y a un rappeur qui a, enfin, dans le même esprit, c'est pas ça qui a été fait. Hein. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit un titre par semaine pendant un an. Et il a été remarqué comme ça. Donc c'était déjà un sacré exploit. Alors c'était que de la musique. Nous, il y a aussi la vidéo avec toute l'histoire qui a raconté, etc. Mais je pense que c'est le moyen de se démarquer, parce qu'encore une fois, Nico est capable de ça et tout le monde n'est pas capable de ça. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment de m'appuyer sur la force de Nico, et puis aussi de creuser un sillon qui me paraissait important, qui était que Nico avait besoin. Enfin, moi, je trouvais que c'était quand on a la chance d'avoir Nico en face de nous en live et qu'il chante devant nous, on prend conscience vraiment de la puissance de cette voix qui est phénoménale. Et des fois, un disque, un enregistrement sonore ne rend pas ça. Et l'idée de pouvoir l'enregistrer pendant un an, juste guitare-voix, sur des registres totalement différents, parce qu'il va devoir explorer plein de choses, et ben là, on, quelque part, on peut toucher du doigt ça beaucoup plus. On peut prendre conscience de ça. Et ça, c'était bien. Et ça, c'était vachement difficile pour Nico parce qu'il a eu l'habitude déjà d'être en groupe. Il aime la culture du groupe. C'est son ADN. Et du coup, devoir lutter contre moi un peu pour à chaque fois se retrouver tout seul devant le micro, c'était un sacré boulot d'arrangement, mais un boulot aussi dans la voix. De vraiment devoir se dépasser à ce niveau-là. Et moi, j'ai deux grandes satisfactions dans le projet. On arrive à la fin. Je suis un peu comme c'était fini, mais c'est pas encore fini. Il en reste encore. Hein. On espère que les gens vont s'y intéresser jusqu'à la fin. Mais c'est d'avoir vu Nico explorer ça, ce côté vraiment guitare-voix, et de prendre conscience qu'il se passe vraiment quelque chose aussi là, dans ces contextes-là, et qu'il est capable d'étendre son champ vocal et d'interprétation comme ça. Et puis la deuxième satisfaction, c'est d'avoir pu aussi proposer, à travers son parcours musical, aussi des chansons qu'il avait écrites, que moi j'avais la chance de connaître, que je trouvais géniales, mais qu'il a jamais joué, qui faisait partie de son passé un peu. Et donc, les réentendre, tout ça, moi j'ai toujours trouvé ça passionnant d'entendre les premiers titres qu'un artiste construit avant qu'il ait ses grands succès, par exemple. Et comme moi je prends Nico comme si c'était un grand artiste, parce que je pense que c'est un grand artiste, ben voilà, je trouve ça génial d'avoir ça. Donc pour moi c'était hyper agréable, mais aussi de voir que ça a plu à plein de gens, c'était chouette.
Merci Damien. J'ai de la chance hein, de l'avoir. Hein.
Oui, mais en fait, c'est pas. Je suis assez d'accord avec lui. Hein. On revient à la musique, peut-être.
On peut écouter Antoine Je vois demain, qui est le titre qui a donné le nom au programme.
Ouais. Nico Sarro.
Rampes bien flambées, elles n'auront pas nos mains. Laissons les naufragés y soulager leur faim. Désertons la prudence, n'ayons plus peur de rien. Tu es ma providence, en toi je vois demain. Les voraces peuvent guetter, vains seront leurs assauts. Plus rien à dévorer, je t'ai pris sur mon dos. Les anges peuvent bien passer, nos silences sont des roses. Les serpents peuvent danser, notre ivresse se repose. En toi, je vois demain. 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 Si nos peurs tambourinent, elles seront les dernières. Nos démons dans l'abîme, puisqu'enfin je te sers. Nos doutes peuvent bien revenir, ils s'effeuilleront d'un rien. Nous saurons les faire fuir. En toi, je vois demain. 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 Les hommes pourront crier, baliser nos chemins. Leur feu à volonté ne nous diront plus rien. Le temps pourra filer et tanner les figures, mais tout au fond de moi, j'entendrai ton murmure. En toi, je vois demain. En toi, je vois demain. En toi, je vois demain. Je vois demain. En toi, 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 je vois demain.
Cossaro avec le titre En toi je vois demain, donc qui donne le titre à ce projet.
Exactement, donc on peut retrouver donc sur YouTube, c'est en streaming, c'est gratuit. Il y a déjà 120 vidéos qui racontent toute cette histoire, mais vous pouvez piocher dedans. Il y a différentes playlists pour s'y retrouver d'ailleurs, pour pas que les gens soient encombrés de trop d'informations. Et puis évidemment, le public qui nous écoute peut nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter. Également Instagram, faut taper soit En toi je vois demain, soit ouais. Nico Sarro, les deux existent à chaque fois, et puis l'un comme l'autre ça se parle. Et puis il y a la plateforme Tipeee sur laquelle les gens peuvent nous donner quelques euros tous les mois pour nous aider à faire que ce projet là débouche sur quelque chose, sur une suite surtout. Évidemment les gens commencent à en parler, mais ceux qui connaissent bien maintenant Nico et les deux albums qu'il a fait, la suite, ça voudrait dire des nouveaux titres, peut-être un nouvel album, peut-être qu'En toi je vois demain pourra avoir droit à une impression sur un objet, etc. Enfin voilà, il y aura l'idée c'est que ça, d'avoir rassemblé des gens et puis de pouvoir ensuite demander à ces gens de nous soutenir pour permettre à Nico de produire sa musique. Voilà, tout simplement. Enfin, l'idée que peut avoir n'importe quel artiste, hein, quand il veut essayer de proposer le meilleur de ce qu'il a, il faut un peu de moyens, donc faut nous soutenir. Voilà. Mm. Faut le soutenir surtout. Hein.
Mais merci. Merci.
Moi, je suis là pour que vous le souteniez.
Merci.
Donc, on va se quitter sur un dernier titre. Qu'est-ce qu'on va écouter?
Alors. Moi, ça serait peut-être bien qu'on mette un peu de rock'n'roll, qu'est-ce que t'en penses, Damien ? Parce qu'en fait, c'est vrai que là, on a entendu pas mal. Donc, du coup, guitare chant en live, Nico Sarro, ça peut s'apparenter à quelque chose d'assez mélodieux, mélodique, un peu pop. On sent l'énergie dans la voix, mais c'est clair que en live, on flirtait quand même un petit peu avec le rock'n'roll. Enfin, moi, je suis un grand fan des Queen of the Stone Age, groupe américain là. Nos dernières productions qu'on a fait sur le dernier album, ça commençait à sonner un peu dans ce style en français. Donc on peut peut-être finir sur une note un peu plus rock. Voilà.
Exactement.
Et puis je voulais remercier tous les auditeurs et puis les gens qui veulent nous soutenir, vous tapez Nico Sarro, S-A-2-R-O, et puis on va essayer de se mettre au boulot, peut-être sur un troisième album, peut-être une tournée quand on pourra tourner, parce que là avec le Covid c'est compliqué, mais l'idée c'est de pas arrêter là, c'est de continuer.
Voilà, donc c'était Musique, etc. avec Nico Sarro et Damien. Merci d'être venu.
Merci à toi pour l'accueil, hein. Merci beaucoup à Radio Canu.
Merci.
C'était un plaisir et rendez-vous sur les blogs de Radio Canu et la rubrique musique, etc. pour le podcast dans la journée. Le podcast est donc avec Nico Sarro. Et donc on se quitte avec le titre
Cette ombre.
Quelle est cette ombre qui me blesse? La spécialiste des coups bas. Une nourrice qui pue l'inceste. Je dois tuer ce qui n'est pas. Quelle est cette ombre qui me blesse? La spécialiste. comme un enfant qui tend les bras, comme une mer pleine de tristesse, pas comme ce père qui n'est pas là.
C'était musique, etc. avec Nico Sarro, générique.